Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Je vous propose aujourd'hui la lecture des trois premières lettres de La religieuse portugaise. C'est un roman épistolaire attribué au vicomte Gabriel de Guillerague. Je vous en parlerai en fin d'émission. Passionnée et lyrique, les cinq lettres prétendument écrites par une religieuse portugaise à un chevalier français montrent les stades successifs de foi, de doute et de désespoir par lesquels est passée la narratrice. Leur franchise, leur tendresse, leur passion, l'espoir, les excuses et le désespoir, ainsi que le total aveu de soi-même, ont suscité à toutes les époques étonnement et admiration de personnes célèbres, comme la marquise de Sévigné, par exemple. Première lettre. Considère, mon amour, jusqu'à quel excès tu as manqué de prévoyance. Ah, malheureux! Tu as été trahi et tu m'as trahi par des espérances trompeuses. Une passion sur laquelle tu avais fait tant de projets de plaisir ne te cause présentement qu'un mortel désespoir qui ne peut être comparé qu'à la cruauté de l'absence qui le cause. Quoi, cette absence, à laquelle ma douleur, toute ingénieuse qu'elle est, ne peut donner un nom assez funeste, me privera donc pour toujours de regarder ses yeux dans lesquels je voyais tant d'amour et qui me faisaient connaître des mouvements qui me comblaient de joie, qui me tenaient lieu de toute chose et qui enfin me suffisaient? Hélas, les miens sont privés de la seule lumière qui les animait, il ne leur reste que des larmes, et je ne les ai employées à aucun usage qu'à pleurer sans cesse depuis que j'appris que vous étiez enfin résolu à un éloignement qui m'est si insupportable qu'il me fera mourir en peu de temps. Cependant, il me semble que j'ai quelque attachement pour des malheurs dont vous êtes la seule cause. Je vous ai destiné ma vie aussitôt que je vous ai vue, et je sens quelque plaisir en vous la sacrifiant. J'envoie mille fois le jour mes soupirs vers vous. Ils vous cherchent en tout lieu, et ne me rapportent pour toute récompense de tant d'inquiétude qu'un avertissement trop sincère que me donne ma mauvaise fortune, qui a la cruauté de ne souffrir pas que je me flatte et qui me dit à tout moment « Cesse, cesse, Marianne infortunée, de te consumer vainement et de chercher un amant que tu ne verras jamais, qui a passé les mers pour te fuir, qui est en France au milieu des plaisirs, qui ne pose pas un seul moment à tes douleurs, et qui te dispense de tous ces transports desquels il ne te sait aucun gré. » Mais non, je ne puis me résoudre à juger si injurieusement de vous, et je suis trop intéressée à vous justifier. Je ne veux point m'imaginer que vous m'avez oublié. Ne suis-je pas assez malheureuse sans me tourmenter par de faux soupçons? Et pourquoi ferais-je des efforts pour ne me plus souvenir de tous les soins que vous avez pris de me témoigner de l'amour? J'ai été si charmée de tous ces soins que je serais bien ingrate si je ne vous aimais avec les mêmes emportements que ma passion me donnait quand je jouissais des témoignages de la vôtre. Comment se peut-il faire que les souvenirs des moments si agréables soient devenus si cruels? Et faut-il que contre leur nature, ils ne servent qu'à tyranniser mon cœur? Hélas, votre dernière lettre le réduisit en un étrange état. Il eut des mouvements si sensibles qu'il fit, ce semble, des efforts pour se séparer de moi et pour vous aller trouver. Je fus si accablée de toutes ces émotions violentes que je demeurai plus de 3 heures abandonnée de tous mes sens. Je me défendis de revenir à une vie que je dois perdre pour vous, puisque je ne puis la conserver pour vous. Je revis enfin, malgré moi, la lumière. Je me flattais de sentir que je mourais d'amour. Et d'ailleurs, j'étais bien aise de n'être plus exposée et avoir mon cœur déchiré par la douleur de votre absence. Après ces accidents, j'ai eu beaucoup de différentes indispositions. Mais puis-je jamais être sans mots tant que je ne vous verrai pas ? Je les supporte cependant sans murmurer, puisqu'ils viennent de vous. Quoi ? Est-ce là la récompense que vous me donnez pour vous avoir si tendrement aimé ? Mais il n'importe, je suis résolue à vous adorer toute ma vie et à ne voir jamais personne. Et je vous assure que vous ferez bien aussi de n'aimer personne. Pourriez-vous être content d'une passion moins ardente que la mienne ? Vous trouverez peut-être plus de beauté. Vous m'avez pourtant dit autrefois que j'étais assez belle. Mais vous ne trouverez jamais tant d'amour, et tout le reste n'est rien. Ne remplissez plus vos lettres de choses inutiles, et ne m'écrivez plus de me souvenir de vous. Je ne puis vous oublier, et je n'oublie pas aussi que vous m'avez fait espérer que vous viendrez passer quelque temps avec moi. Hélas, pourquoi n'y voulez-vous pas passer toute votre vie ? S'il m'était possible de sortir de ce malheureux cloître, je n'attendrais pas en Portugal l'effet de vos promesses. J'irai, sans garder aucune mesure, vous chercher, vous suivre et vous aimer par tout le monde. Je n'ose me flatter que cela puisse être. Je ne veux point nourrir une espérance qui me donnerait assurément quelque plaisir, et je ne veux plus être sensible qu'aux douleurs. J'avoue cependant que l'occasion que mon frère m'a donnée de vous écrire a surpris en moi quelques mouvements de joie et qu'elle a suspendu pour un moment le désespoir où je suis. Je vous conjure de me dire pourquoi vous vous êtes attaché à m'enchanter comme vous avez fait, puisque vous saviez bien que vous deviez m'abandonner. Et pourquoi avez-vous été si acharné à me rendre malheureuse ? Que ne me laissiez-vous en repos dans mon cloître ? Vous avais-je fait quelque injure ? Mais je vous demande pardon. Je ne vous impute rien. Je ne suis pas en état de penser à ma vengeance. Et j'accuse seulement la rigueur de mon destin. Il me semble qu'en nous séparant, il nous a fait tout le mal que nous pouvions craindre. Il ne saurait séparer nos cœurs. L'amour qui est plus puissant que lui les a unis pour toute notre vie. Si vous prenez quelque intérêt à la mienne, écrivez-moi souvent. Je mérite bien que vous preniez quelque soin de m'apprendre l'état de votre cœur et de votre fortune. Surtout, venez me voir. Adieu. Je ne puis quitter ce papier. Il tombera entre vos mains. Je voudrais bien avoir le même bonheur. Hélas! Insensé que je suis, je m'aperçois bien que cela n'est pas possible. Adieu, je n'en puis plus. Adieu, aimez-moi toujours et faites-moi souffrir encore plus de maux.
If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in a summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away, As I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look that I see on your face. Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly. Tell you next hello if you go away.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Il me semble que je fais le plus grand tort du monde aux sentiments de mon cœur de tâcher de vous les faire connaître en les écrivant, que je serais heureuse si vous en pouviez bien juger par la violence des vôtres. Mais je ne dois pas m'en rapporter à vous, et je ne puis m'empêcher de vous dire, bien moins vivement que je ne le sens, que vous ne devriez pas me maltraiter comme vous faites par un oubli qui me met au désespoir et qui est même honteux pour vous. Il est bien juste au moins que vous souffriez que je me plaigne des malheurs que j'avais bien prévus quand je vous vis résolue de me quitter. Je connais bien que je me suis abusée lorsque j'ai pensé que vous auriez un procédé de meilleure foi qu'on a accoutumé d'avoir, parce que l'excès de mon amour me mettait, ce semble, au-dessus de toutes sortes de soupçons et qu'il méritait plus de fidélité qu'on en trouve d'ordinaire. Mais la disposition que vous avez à me trahir l'emporte enfin sur la justice que vous devez à tout ce que j'ai fait pour vous. Je ne laisserai pas d'être bien malheureuse si vous ne m'aimiez que parce que je vous aime. Je voudrais tout devoir à votre seule inclination. Mais je suis si éloignée d'être en cet état que je n'ai pas reçu une seule lettre de vous depuis 6 mois. J'attribue tout ce malheur à l'aveuglement avec lequel je me suis abandonnée à m'attacher à vous. Ne devais-je pas prévoir que mes plaisirs finiraient plus tôt que mon amour? Pouvais-je espérer que vous demeureriez toute votre vie en Portugal et que vous renonceriez à votre fortune et à votre pays pour ne penser qu'à moi? Mes douleurs ne peuvent recevoir aucun soulagement et le souvenir de mes plaisirs me comble de désespoir. Quoi, tous mes désirs seront donc inutiles, et je ne vous verrai jamais en ma chambre avec toute l'ardeur et tout l'emportement que vous me faisiez voir. Mais hélas, je m'abuse, et je ne connais que trop, que tous les mouvements qui occupaient ma tête et mon cœur n'étaient excités en vous que par quelques plaisirs, et qu'ils finissaient aussitôt qu'eux. Il fallait que dans ces moments trop heureux, j'appelasse ma raison à mon secours, pour modérer l'excès funeste de mes délices et pour m'annoncer tout ce que je souffre présentement. Mais je me donnais tout à vous et je n'étais pas en état de penser à ce qui eût pu empoisonner ma joie et m'empêcher de jouir pleinement des témoignages ardents de votre passion. Je m'apercevais trop agréablement que j'étais avec vous pour penser que vous seriez un jour éloigné de moi. Je me souviens pourtant de vous avoir dit quelquefois que vous me rendriez malheureuse. Mais ces frayeurs étaient bientôt dissipées et je prenais plaisir à vous les sacrifier et à m'abandonner à l'enchantement et à la mauvaise foi de vos protestations. Je vois bien le remède à tous mes maux et j'en serais bientôt délivrée si je ne vous aimais plus. Mais hélas, quel remède ! Non. J'aime mieux souffrir davantage que vous oublier. Hélas, cela dépend-il de moi? Je ne puis me reprocher d'avoir souhaité un seul moment de ne plus vous aimer. Vous êtes plus à plaindre que je ne suis, et il vaut mieux souffrir tout ce que je souffre que de jouir des plaisirs languissants que vous donnent vos maîtresses de France. Je n'envie point votre indifférence, et vous me faites pitié. Je vous défie de m'oublier entièrement. Je me flatte de vous avoir mis en état de n'avoir sans moi que des plaisirs imparfaits, et je suis plus heureuse que vous, puisque je suis plus occupée. L'on m'a faite depuis peu portière en ce couvent. Tous ceux qui me parlent croient que je suis folle. Je ne sais ce que je leur réponds. et il faut que les religieux soient aussi insensés que moi pour m'avoir cru capable de quelques soins. Ah, j'envie le bonheur d'Emmanuel et de Francisque. Pourquoi ne suis-je pas incessamment avec vous comme eux ? Je vous aurais suivi, et je vous aurais assurément servi de meilleur cœur. Je ne souhaite rien dans ce monde que vous voir. Au moins, souvenez-vous de moi ? Je me contente de votre souvenir, mais je n'ose m'en assurer. Je ne bornais pas mes espérances à votre souvenir quand je vous voyais tous les jours. Mais vous m'avez bien appris qu'il faut que je me soumette à tout ce que vous voudrez. Cependant, je ne me repens point de vous avoir adoré. Je suis bien aise que vous m'ayez séduite. Votre absence rigoureuse, et peut-être éternelle, ne diminue en rien l'emportement de mon amour. Je veux que tout le monde le sache, je n'en fais point un mystère, et je suis ravie d'avoir fait tout ce que j'ai fait pour vous, contre toutes sortes de bienséances. Je ne mets plus mon honneur et ma religion qu'à vous aimer éperdument toute ma vie, puisque j'ai commencé à vous aimer. Je ne vous dis point toutes ces choses pour vous obliger à m'écrire. Ah ! Ne vous contraignez point, je ne veux de vous que ce qui viendra de votre mouvement, et je refuse tous les témoignages de votre amour dont vous pourriez vous empêcher. J'aurai du plaisir à vous excuser, parce que vous aurez, peut-être, du plaisir à ne pas prendre la peine de m'écrire. Et je sens une profonde disposition à vous pardonner toutes vos fautes. Un officier français a eu la charité de me parler ce matin plus de 3 heures de vous. Il m'a dit que la paix de France était faite. Si cela est, ne pourriez-vous pas me venir voir et m'emmener en France ? Mais je ne le mérite pas. Faites tout ce qu'il vous plaira. Mon amour ne dépend plus de la manière dont vous me traiterez. Depuis que vous êtes parti, je n'ai pas eu un seul moment de santé. Et je n'ai aucun plaisir qu'en nommant votre nom 1000 fois le jour. Quelques religieuses, qui savent l'état déplorable où vous m'avez plongé, me parlent de vous souvent. Je sors le moins qu'il m'est possible de ma chambre où vous êtes venu tant de fois, et je regarde sans cesse votre portrait, qui m'est 1000 fois plus cher que ma vie. Il me donne quelques plaisirs, mais il me donne aussi bien de la douleur lorsque je ne vous reverrai peut-être jamais. Pourquoi faut-il qu'il soit possible que je ne vous verrai peut-être jamais ? M'avez-vous pour toujours abandonné ? Je suis au désespoir. Votre pauvre Marianne n'en peut plus. Elle s'évanouit en finissant cette lettre. Adieu, adieu, ayez pitié de moi.
Never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. Did you think this fool could never win? Well look at me, I'm a coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know, while I'm standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Troisième lettre. Qu'est-ce que je deviendrai ? Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je me trouve bien éloignée de tout ce que j'avais prévu. J'espérais que vous m'écririez de tous les endroits où vous passeriez et que vos lettres seraient fort longues, que vous soutiendriez ma passion par l'espérance de vous revoir, qu'une entière confiance en votre fidélité me donnerait quelque sorte de repos et que je demeurerais cependant dans un état assez supportable sans d'extrême douleur. J'avais même pensé à quelque faible projet de faire tous les efforts dont je serais capable pour me guérir si je pouvais connaître bien certainement que vous m'eussiez tout à fait oublié. Votre éloignement, quelques mouvements de dévotion, la crainte de ruiner entièrement le reste de ma santé par tant de veilles et tant d'inquiétudes, le peu d'apparence de votre retour, la froideur de votre passion et de vos derniers adieux, votre départ fondé sur d'assez méchants prétextes, et mille autres raisons qui ne sont que trop bonnes et que trop inutiles, semblaient me promettre un secours assez assuré s'il me devenait nécessaire. N'ayant enfin à combattre que contre moi-même, je ne pouvais jamais me défier de toutes mes faiblesses, ni appréhender tout ce que je souffre aujourd'hui. Hélas, que je suis à plaindre de ne partager pas mes douleurs avec vous et d'être toute seule malheureuse. Cette pensée me tue et je meurs de frayeur que vous n'ayez jamais été extrêmement sensible à tous nos plaisirs. Oui, je connais présentement la mauvaise foi de tous vos mouvements. Vous m'avez trahi toutes les fois que vous m'avez dit que vous étiez ravi d'être seule avec moi. Je ne dois qu'à mes importunités, vos empressements et vos transports. Vous aviez fait de sang-froid un dessein de m'enflammer. Vous n'avez regardé ma passion que comme une victoire et votre cœur n'en a jamais été profondément touché. N'êtes-vous pas bien malheureux? Et n'avez-vous pas bien peu de délicatesse de n'avoir su profiter qu'en cette manière de mes emportements? Et comment est-il possible qu'avec tant d'amour, je n'ai pu vous rendre tout à fait heureux? Je regrette, pour l'amour de vous seulement, les plaisirs infinis que vous avez perdus. Faut-il que vous n'ayez pas voulu en jouir? Ah, si vous les connaissiez! Vous trouveriez sans doute qu'ils sont plus sensibles que celui de m'avoir abusé, et vous auriez éprouvé qu'on est beaucoup plus heureux et qu'on sent quelque chose de bien plus touchant quand on aime violemment que lorsqu'on est aimé. Je ne sais ni ce que je suis, ni ce que je fais, ni ce que je désire. Je suis déchirée par mille mouvements contraires. Peut-on s'imaginer un état si déplorable ? Je vous aime éperdument, et je vous ménage assez pour n'oser peut-être souhaiter que vous soyez agité des mêmes transports. Je me tuerais ou je mourrais de douleur sans me tuer si j'étais assurée que vous n'avez jamais aucun repos, que votre vie n'est que trouble et qu'agitation, que vous pleurez sans cesse et que tout vous est odieux. Je ne puis suffire à mes maux. Comment pourrais-je supporter la douleur que me donneraient les vôtres, qui me seraient mille fois plus sensibles? Cependant, je ne puis aussi me résoudre à désirer que vous ne pensiez point à moi. Et à vous parler sincèrement, je suis jalouse avec fureur de tout ce qui vous donne de la joie et qui touche votre cœur et votre goût en France. Je ne sais pourquoi je vous écris, je vois bien que vous aurez seulement pitié de moi. Je ne veux point de votre pitié. J'ai bien du dépit contre moi-même quand je fais réflexion sur tout ce que je vous ai sacrifié. J'ai perdu ma réputation. Je me suis exposée à la fureur de mes parents, à la sévérité des lois de ce pays contre les religieuses et à votre ingratitude qui me paraît le plus grand de tous les malheurs. Cependant, je sens bien que mes remords ne sont pas véritables. Que je voudrais, du meilleur de mon cœur, avoir couru pour l'amour de vous de plus grands dangers, et que j'ai un plaisir funeste d'avoir hasardé ma vie et mon honneur. Tout ce que j'ai de plus précieux ne devrait-il pas être en votre disposition? Et ne dois-je pas être bien aise de l'avoir employé comme j'ai fait? Il me semble même que je ne suis guère contente ni de mes douleurs, ni de l'excès de mon amour, quoique je ne puisse hélas me flatter assez pour être contente de vous. Je vis, infidèle que je suis, et je fais autant de choses pour conserver ma vie que pour la perdre. Ah, j'en meurs de honte. Mon désespoir n'est donc que dans mes lettres. Et si je vous aimais autant que je vous l'ai dit mille fois, ne serais-je pas morte il y a longtemps? Je vous ai trompée. C'est à vous de vous plaindre de moi. Hélas, pourquoi ne vous en plaignez-vous pas? Je vous ai vu partir. Je ne puis espérer de vous voir jamais de retour. Et je respire cependant. Je vous ai trahi. Je vous en demande pardon. Mais ne me l'accordez pas. Traitez-moi sévèrement. Ne trouvez point que mes sentiments soient assez violents? Soyez plus difficile à contenter. Mandez-moi que vous voulez que je meure d'amour pour vous. Et je vous conjure de me donner ce secours afin que je surmonte la faiblesse de mon sexe et que je finisse toutes mes irrésolutions par un véritable désespoir. Une fin tragique vous obligerait sans doute à penser souvent à moi. Ma mémoire vous serait chère. Et vous seriez, peut-être, sensiblement touché d'une mort extraordinaire. Ne vaut-elle pas mieux que l'état où vous m'avez réduite? Adieu. Je voudrais bien ne vous avoir jamais vu. Ah, je sens vivement la fausseté de ce sentiment. Et je connais dans le moment que je vous écris que j'aime bien mieux être malheureuse en vous aimant que de ne vous avoir jamais vu. Je consens donc sans murmure à ma mauvaise destinée, puisque vous n'avez pas voulu la rendre meilleure. Adieu. Promettez-moi de me regretter tendrement si je meurs de douleur, et qu'au moins la violence de ma passion vous donne du dégoût et de l'éloignement pour toute chose. Cette consolation me suffira, et s'il faut que je vous abandonne pour toujours, je voudrais bien ne vous laisser pas à une autre. Ne seriez-vous pas bien cruel de vous servir de mon désespoir pour vous rendre plus aimable et pour vous faire voir que vous avez donné la plus grande passion du monde? Adieu encore une fois. Je vous écris des lettres trop longues. Je n'ai pas assez d'égards pour vous, je vous en demande pardon. Et j'ose espérer que vous aurez quelque indulgence pour une pauvre insensée qui ne l'était pas, comme vous savez, avant qu'elle vous aimât. Adieu. Il me semble que je vous parle trop souvent de l'état insupportable où je suis. Cependant, je vous remercie dans le fond de mon cœur du désespoir que vous me causez, et je déteste la tranquillité où j'ai vécu avant que je vous connusse. Adieu. Ma passion augmente à chaque moment. Ah, que j'ai de choses à vous dire! Je vous ai lu les trois premières lettres de La religieuse portugaise, œuvre qui en compte cinq, comme cinq actes d'une tragédie, d'un chant de l'amour trahi, où d'ailleurs la religion et la vertu n'ont que très peu de place. Au fil des lettres, elle s'embrase, s'apaise, puis gagne en maîtrise de soi. Le sentimentalisme des lettres, véritable fragment d'auto-analyse psychologique, annonce le genre littéraire du roman épistolaire du XVIIIe siècle. D'abord publié anonymement chez Claude Barbin à Paris en 1669 comme la traduction de cinq lettres d'une religieuse portugaise, nombre de spécialistes pensent qu'il s'agit en réalité d'un roman épistolaire dû à Gabriel Joseph de Lavergne, comte de Guillerague, qui était avocat, écrivain bordelais, familier des salons littéraires mondains, ambassadeur à la cour ottomane et d'ailleurs décédé à Constantinople en 1685. Mais avant d'être considéré comme une œuvre de fiction attribuée à Guillerague, les lettres ont souvent été attribuées à la religieuse franciscaine du XVIIe siècle du couvent de Beja au Portugal, du nom de Mariana Alcoforado, 1640-1723. Censé écrire à son amant français, le marquis de Chamilly, venu au Portugal combattre du côté des Portugais dans leur lutte pour l'indépendance face à l'Espagne de 1663 à 1668. Actuellement, vous pouvez trouver ces lettres dans de nombreuses éditions, notamment en poche. Lors des pauses musicales, nous avons écouté deux morceaux d'un album de Imani. Le premier était « If You Go Away », qui est donc une reprise de Jacques Brel « Ne me quitte pas ». Et le second était une reprise éponyme du morceau d'Elton John « I'm Still Standing ». Cette émission a été produite par Frédéric Guillon. Je vous donne rendez-vous demain à 18h dans Voix au chapitre pour de nouvelles lectures et je vous souhaite une agréable soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.